Vous écoutez, on lit pour vous.
Splendeur et misère d'un fleuron énergétique. En sous-titre, la crise du verglas est un miroir riche en enseignements pour penser la transition énergétique. Un texte de Louis-Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il peut contribuer à forger une impression de contrôle. En 2022, au plus fort de la crise énergétique en France, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a troqué la cravate pour le col roulé, imité par le président Macron. Ce symbole de sobriété, les Québécois en connaissent une variante puissante, gracieuseté d'André Caillé. En 1998, à la faveur de la crise du verglas qui a mis le réseau d'Hydro-Québec à genoux, il en a fait le porte-étendard de notre résistance énergétique. Ce fut d'abord un geste spontané. Débarqué en catastrophe à Saint-Hyacinthe, mal préparé pour le froid mordant, le PDG d'Hydro-Québec s'est fait offrir un col roulé par son chauffeur. Le port du vêtement, frappé du logo d'Hydro, est vite devenu un acte de solidarité avec les travailleurs pour se transformer, au terme des 35 jours que dura cette crise, en symbole de la résilience de notre fleuron énergétique. Les premières gouttes commencent à tomber le 5 janvier. Le 9 janvier, le Québec est paralysé. Montréal n'est plus alimenté que par un seul fil. La métropole est sur le point de manquer d'eau, mais elle est aussi impossible à évacuer car tous ces ponts sont impraticables. Quelques 3,5 millions de Québécois sont privés de courant. Aux côtés d'un premier ministre, Lucien Bouchard, au sommet de ses moyens, le patron d'Hydro-Québec affiche une assurance rassurante. En son fort intérieur, il en est à prier pour que la pluie cesse. Le ciel s'éclaircira enfin. Sur le terrain, c'est la désolation. 24 000 poteaux de bois, 900 pylônes et 3 000 kilomètres de lignes électriques céderont sous le poids des quelques 100 millimètres de verglas. On pleurera 30 morts. Dans le triangle noir, les jours de paralysie deviennent des semaines. Le Québec découvre la vulnérabilité d'un réseau qu'il ne soupçonnait pas. La population se serre les coudes, rassurée par le tandem que forment Bouchard et Caillé, le premier en père de la nation qui sait où il va, le second en lumière scientifique qui sait comment y aller. Cet état de grâce ne résistera pas à la longue reconstruction qui suivra, encore moins aux changements prescrits par la commission Nicolet. Marqué au fer rouge par la crise, André Caillé poussera les travaux jusqu'à devenir la bête noire des écologistes et des groupes citoyens. Ceux-ci ne lui pardonneront ni la précipitation entourant la ligne Hertel des cantons, ni la centrale thermique du Suroît sur laquelle Québec finira par mettre une croix. Cet immense chantier a des parentés avec celui que pilote l'actuel PDG d'Hydro dans un Québec qui s'est donné pour objectif de devenir le premier État carboneutre en Amérique du Nord d'ici 2050. On parle tout de même d'investissements de 155 à 185 milliards de dollars d'ici 2035. Ça ne pèse pas que sur nos finances publiques. Le paysage aussi va changer, a prévenu Claudine Bouchard. Citation: il va y avoir plus d'éoliennes, plus de pylônes, plus de lignes de transport. Fin de citation. Avec tout ce que cela comporte de risques démultipliés, la tempête de 1998 a été qualifiée d'historique. Les risques qu'elle se reproduise à l'identique sont faibles. Les changements climatiques annoncent toutefois une intensification et un rapprochement des épisodes de verglas qui vont mettre le réseau à l'épreuve. Si plusieurs des leçons de la commission Nicolet ont été tirées et mises en place, autant sur les plans techniques, politiques ou logistiques, des bonds de géants ont été franchis, le réseau reste vulnérable. Hydro-Québec a dû lancer deux alertes de défaillance de puissance les 3 et 5 décembre. Le service aux résidents n'est pas jugé à la hauteur dans 1800 zones du territoire. En progression ces dernières années, les pannes restent une bête noire que la Société d'État s'est engagée à réduire de 35% d'ici 10 ans. Le défi est d'autant plus grand qu'au fur et à mesure qu'on élargira l'électrification de nos activités quotidiennes, condition essentielle à l'abandon des énergies fossiles, notre intolérance aux pannes va grimper. Sans compter le fait que près de la moitié de l'énergie totale produite au Québec est perdue et n'apporte aucune valeur à l'économie, selon le baromètre de Prospera. Avant de songer à produire plus, il faudrait s'attaquer de front à la désinvolture et au gaspillage énergétique qui fleurissent au Québec. Mais ce n'est pas gagné avec un gouvernement qui mise sur un plafonnement rigide des tarifs et valorise la distribution de blocs aux industriels, au point de pousser l'ex-PDG Sophie Brochu à s'inquiéter de voir le Québec devenir le Dollarama de l'électricité. Ce l'est encore moins avec une régie de l'énergie au pouvoir rétréci par le gouvernement Legault. Les Québécois n'ont pas oublié les leçons de la crise du verglas, ni celles de la reconstruction qui a suivi. Il faudra donc se lever de bonne heure pour leur imposer une transition énergétique qui en ferait fi. Fin de ce texte de Louise Maud Rio-Soucy, titré « Splendeur et misère d'un fleuron énergétique », publié en éditorial du Devoir.
Normaliser le burn-out au communautaire, un échec collectif. Un texte d'Andrea Bacon-Terrien, publié dans Le Devoir. Après 5 ans dans le milieu communautaire, je tire ma révérence à la suite d'un épuisement professionnel sévère. Et non, ce n'est pas normal. Servir la société ne devrait jamais se faire au prix de sa santé mentale. Mon expérience est le symptôme d'une culture sacrificielle qui banalise l'épuisement. Et cette banalisation est un échec collectif. Le one-man show et le burn-out facile, et le « ça a toujours été comme ça », nourrissent une résignation collective où l'épuisement est attendu et anticipé. Reconnaître ses limites dans le communautaire, c'est souvent s'exposer au jugement d'être trop fragile pour y rester. Pour ma part, je n'ai aucune honte à le dire, j'ai atteint ma limite, définitivement. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de pas assez solide, cela fait de moi quelqu'un qui se respecte. Cette lettre ne vise aucun ancien employeur. Je dénonce une culture systémique qui écrase les travailleurs. J'ai la chance de pouvoir quitter le milieu communautaire et de prendre la parole. Mais beaucoup n'ont pas cette possibilité, faute de perspectives hors du secteur. C'est la faute du gouvernement. Les journaux et les réseaux sociaux regorgent de critiques de militants, d'organismes et de travailleurs qui dénoncent le sous-financement chronique du communautaire, accusant le système public d'abandonner les travailleurs. C'est devenu un discours prémâché. Pourtant, peu osent le dire, il est trop facile de rejeter la faute sur le gouvernement plutôt que de remettre en question nos propres pratiques et de briser le statu quo organisationnel ou même militant. Le manque de ressources ne peut servir d'alibi pour tolérer l'inacceptable. Rien ne justifie cette culture acceptée avec fatalisme. On ne peut servir la société si les travailleurs eux-mêmes ont perdu la passion de leur métier, épuisés, découragés et frustrés. Et aucun travailleur ne devrait sacrifier sa santé mentale au nom du bien commun. Ces constats ont un visage, une histoire. La mienne en est une illustration. Péricardite et stress, mauvaise recette. Durant les dernières années, une douleur thoracique fulgurante m'a menée à l'hôpital. Diagnostic, péricardite, causée par un stress prolongé et une fatigue accumulée. Mais le plus aberrant n'a pas été la maladie, mais ma réaction. Avant même d'appeler l'ambulance, j'ai voulu m'excuser de ne pas pouvoir respecter un échéancier administratif pour le dépôt d'une subvention, alors qu'on croyait à ce moment que je faisais un malaise cardiaque. Comme si ma santé passait après une date limite. Voilà ce que cette culture fait aux travailleurs, elle les pousse à s'oublier. Ce jour-là, j'ai compris que mon corps criait plus fort que ma volonté de tenir. Vie personnelle sacrifiée. Depuis 5 ans, j'ai manqué à mes rôles de conjoint, de proche aidante, de fille, de sœur, d'amie. J'ai délaissé ma famille, raté des fêtes, perdu des moments irremplaçables. J'ai laissé filer des souvenirs que je ne pourrai jamais recréer, comme des visites manquées à mon grand-père atteint d'Alzheimer. Aujourd'hui, il ne me reconnaît plus. Le communautaire m'a volé des instants de vie qui ne reviendront jamais. Et chaque absence au travail portait la marque de la culpabilité, comme si servir une cause justifiait de délaisser mes proches. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de centaines de personnes qui sacrifient leur vie et leur santé pour servir la société. On nous répète qu'il faut se dévouer corps et âme, comme si le bien commun justifiait de perdre sa santé mentale et sa vie personnelle. Combien de personnes au communautaire sacrifient leur vie personnelle pour leur travail? Combien de parents manquent des événements importants avec leurs enfants? Combien de proches aidants ratent des rendez-vous médicaux cruciaux ou des visites à un proche malade? Il est temps de briser ce cycle et reconnaître que le burn-out au communautaire n'est pas une fatalité. Le point de rupture. Un matin de novembre, j'appelle ma conjointe les larmes aux yeux. Je lui dis simplement « C'est fini, je n'y arrive plus ». Elle comprend. Après un silence et une grande inspiration, elle me répond « Ok, ça va aller, on va s'en sortir ». Après 5 ans de dévotion, je quittais le communautaire. Et cette fois, je savais que je ne reviendrais pas. Le communautaire est vital pour notre société. Mais il ne peut continuer à fonctionner en brisant ceux qui le portent. Alors, je vous le demande, combien de travailleurs devront encore s'effondrer avant que le milieu change ses pratiques? C'était « Normaliser le burn-out au communautaire, un échec collectif », un texte d'Andrea Bacon-Terrien, publié dans Le Devoir.
Les Québécois paient des millions chaque année pour recevoir des soins au Canada. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne paru dans Le Devoir. Vous êtes un Québécois en visite dans une autre province canadienne et avez besoin de soins médicaux? Peut-être qu'un fâcheux incident a fait en sorte que vous vous êtes disloqué l'épaule, que vous avez une infection urinaire ou que votre enfant fait une otite. Préparez-vous alors à débourser des centaines, voire des milliers de dollars de votre poche pour recevoir des soins, et ce, même si vous n'avez pas quitté votre pays. La plupart des gens tiennent pour acquis que s'ils ont besoin de soins dans une autre province canadienne, tous les frais seront pris en charge. Or, cela ne s'applique toujours pas aux résidents du Québec ni à leurs concitoyens canadiens qui ont besoin de services médicaux au Québec. Selon des données obtenues grâce à une demande d'accès à l'information, en 2024, les Québécois ont soumis à la RAMQ pour 12,6 millions de dollars de frais qu'ils ont payés pour des services de santé rendus par des professionnels dans une autre province canadienne. Sur ce montant, la RAMQ a remboursé 2,3 millions de dollars. C'est donc dire que plusieurs Québécois ont eu la mauvaise surprise de constater que le système de soins de santé n'est pas si universel que ça, finalement. Au total, les usagers québécois ont déboursé de leur poche 10,3 millions de dollars en 2024 seulement pour se faire soigner au Canada. Le ministère conseille une assurance privée. Le Québec fait cavalier seul parce qu'il a fait le choix de ne pas adhérer aux ententes réciproques de facturation pour les services médicaux, sauf les soins d'urgence. Pour les patients, cela signifie qu'ils peuvent utiliser leur carte santé au lieu de débourser directement pour les soins reçus dans une autre province. Puisque le Québec n'a pas d'accord de facturation réciproque des services médicaux avec d'autres provinces, les résidents du Québec paient généralement ces services directement de leur poche et sont ensuite remboursés selon les propres tarifs du Québec plutôt que selon le tarif de la province hôte, écrit Santé Canada dans un courriel transmis à la presse canadienne. Le hic, c'est que la différence peut représenter une somme d'argent colossale, pouvant facilement atteindre des milliers de dollars selon l'ampleur des services médicaux requis. Il se peut qu'il y ait parfois un écart entre le taux facturé et celui remboursé. C'est donc pourquoi nous invitons les personnes détentrices d'une carte d'assurance maladie valide à se prévaloir d'une assurance médicale privée pour tout voyage hors Québec, écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel. Le docteur Charles Shaver, aujourd'hui âgé de 81 ans et retraité depuis un an, a été témoin des conséquences de ce système. Il a été docteur en médecine interne à Ottawa. Dans la clinique où il travaillait, il est arrivé qu'un patient ne pouvait ou ne voulait pas payer pour le soin. « Alors je ne l'ai jamais vu », dit-il. C'était la politique de la clinique, une politique largement répandue dans les cliniques aux abords des frontières avec le Québec, selon l'ancien médecin. Un point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'accord de facturation réciproque. Il est là pour vous faciliter la tâche, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, précise le docteur Shaver. Notre système actuel présente de nombreux problèmes. Je suis d'accord, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que les médecins et les cliniques privées de l'Est de l'Ontario, qui voient la majorité des patients québécois, ont pour politique de leur facturer directement les tarifs de l'Association médicale de l'Ontario, qui sont considérablement plus élevés que ceux de l'Assurance santé de l'Ontario et probablement un peu plus élevés que ceux du Québec, poursuit-il. Pour cette raison, il pense que ça ne changerait pas grand-chose si le Québec faisait partie de l'accord de facturation réciproque. Soulignons qu'à la fin des années 1980, les honoraires au Québec étaient les plus bas au Canada. Aujourd'hui, ils sont parmi les plus élevés. Accès aux urgences, peu importe l'endroit au Canada. Dans une clinique ou un cabinet privé, le patient n'est pas reçu par le médecin tant qu'il n'a pas payé. Vous payez d'avance avant d'être reçu. C'est tout à fait différent aux urgences, explique Dr. Shaver. En vertu de la loi canadienne sur la santé, les provinces et les territoires doivent assumer les frais des services médicaux et hospitaliers urgents pour leurs résidents lorsqu'ils sont temporairement à l'extérieur de leur province. Le Québec a signé, avec chaque province et territoire, un accord interprovincial de facturation réciproque en matière d'assurance hospitalisation, ce qui permet aux citoyens du Québec de recevoir des soins hospitaliers, peu importe l'endroit au Canada, sans avoir à n'en défrayer les coûts, affirme le ministère de la Santé. Il explique que cela assure une pleine cohérence avec les tarifs, conditions des ententes signées avec les médecins au Québec. Selon les données de la RAMQ, lorsqu'un médecin facture ses honoraires au système de santé québécois, celui-ci ne reçoit généralement pas la totalité. En 2024, la RAMQ a été facturée 8,9 millions de dollars et a payé 7 millions de dollars lorsque le destinataire du paiement était un professionnel. Il y a donc un écart de 1,9 million de dollars entre les honoraires du prestataire de soins envoyé au Québec et le montant qu'il a été payé. Au cours de sa carrière, le Dr Shaver n'a pas aimé traiter avec le Québec qui avait la fâcheuse habitude, selon lui, de payer puis parfois, après coup, de reprendre l'argent. Nous recevions donc de l'argent, puis quelques mois plus tard, il réévaluait la demande et la reprenait. Au cours de toutes mes années d'exercice, je n'ai jamais eu de demande auprès du gouvernement de l'Ontario qui ait été reprise de cette manière, raconte-t-il. Questionné à savoir si le Québec pourrait éventuellement faire partie de l'accord avec les autres provinces, le ministère de la Santé répond qu'il n'y a pas de travaux en cours pour intégrer les services médicaux aux accords de réciprocité. C'était « Les Québécois paient des millions chaque année pour recevoir des soins au Canada », un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru dans Le Devoir.
Les guerres entraînent une pénurie mondiale de TNT. Un texte de John Ismay du New York Times paru dans la presse. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis utilisent le TNT dans leurs armes militaires et dans l'exploitation minière. Abondant et bon marché, il se vendait 50 cents la livre il y a une vingtaine d'années. Le TNT, ou trinitrotoluène, a plusieurs usages. Il sert dans les obus et les bombes, mais aussi à faire exploser la roche, construire des routes et fabriquer le ciment utilisé dans la construction résidentielle et les chantiers d'infrastructures. Cet explosif était produit aux États-Unis pendant les deux guerres mondiales et jusqu'aux années 1980, mais comme sa production génère des déchets dangereux, la dernière usine américaine a fermé en 1986. Des fournisseurs en Chine, en Russie, en Pologne et en Ukraine, notamment, ont pris le relais, offrant l'explosif à bas prix et se chargeant des résidus dangereux. L'armée américaine conserve ses stocks. Jusqu'à récemment, pour l'usage civil, beaucoup de TNT étaient recyclés à partir des munitions, mines terrestres, obus et bombes, que le Pentagone met régulièrement hors service parce qu'elles sont trop anciennes. L'explosif qu'elle contenait était encore utilisable. Or, cette source s'est tarie depuis que l'armée américaine a décidé de conserver ses armes plus anciennes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La Pologne était le seul fournisseur autorisé de TNT du Pentagone. Mais la Pologne, voisine de l'Ukraine, lui en envoie beaucoup, où il sert uniquement à des fins militaires. Parallèlement, deux producteurs de TNT, la Russie et la Chine, ont cessé d'exporter vers les États-Unis, ont déclaré les responsables. Tout cela met sous tension la production d'armes américaines et les opérations dans les carrières qui produisent des matières premières servant à la construction de ponts, de routes et de bâtiments au pays. Le Congrès a donc autorisé la construction d'une nouvelle usine de TNT gérée par l'armée dans le Kentucky, dont le coût s'élèvera à 435 millions de dollars. Elle doit ouvrir fin 2028, mais produira seulement du TNT à usage militaire. Il n'est pas prévu d'en vendre au secteur civil pour réduire la pénurie qui risque de bientôt ralentir certains grands chantiers et faire grimper le prix de certaines matières premières. Indispensable pour l'industrie. Notre monde n'existerait pas sans explosifs industriels, plaide Clark Mika, président d'un regroupement du secteur des explosifs civils. 9 fois sur 10, tout ce qui sort d'une mine implique des explosifs, d'une manière ou d'une autre. Et ce processus commence en général dans une carrière. Ça commence par le forage d'un trou, qu'on bourre d'explosifs, dit M. Mika, rencontré dans une carrière dans la campagne virginienne au fond d'une fosse profonde de 90 mètres creusée à flanc de colline. Durant l'entrevue, des ouvriers se préparent à faire exploser plus de 100 000 tonnes de granit d'un seul coup. L'industrie des explosifs commerciaux a appris à rendre son travail moins perturbateur, explique-t-il. Les relevés et calculs, autrefois faits à la main, sont désormais réalisés plus vite et plus précisément grâce à des drones, numériseurs 3D et ordinateurs qui déterminent où placer juste assez d'explosifs. M. Mika montre des camions spécialisés mélangeant du nitrate d'ammonium avec d'autres produits chimiques pour créer un agent explosif qui sera ensuite injecté dans les trous. De petites quantités de TNT sont utilisées pour faire exploser ce mélange. De minuscules détonateurs électroniques déclenchent des charges d'amorçage de TNT de la taille d'une canette de bière placées au fond et en haut de chaque trou. Ces charges de TNT, en explosant, déclenchent l'explosion principale d'un agent explosif. L'explosion qui suit, deux fois plus puissante que celle de la plus grosse bombe utilisée en Afghanistan, est impressionnante. Elle soulève littéralement la falaise dans les airs et fait tomber plus de 110 000 tonnes de roches au fond du puits rempli d'eau. Pourtant, à 500 mètres de l'explosion, le bruit et la secousse sont négligeables. Dès que la poussière se dissipe, d'énormes bulldozers, excavatrices et camions à benne transportent le granit brisé vers des concasseurs au-dessus de la fosse afin qu'il puisse être broyé à des fins industrielles. Solution de rechange recherchée. Devant la guerre en Ukraine qui se prolonge, les entreprises recherchent des solutions de rechange au TNT. Un des substituts envisagés, le tétranitrate de pentaérythritol ou PETN, est déjà fabriqué par trois usines aux États-Unis, mais on ne sait pas quand la production pourra être augmentée. Ces dernières années, le Pentagone s'est appuyé sur une seule usine en Pologne pour ses besoins en TNT. Cependant, il semble que le ministère de la Défense ait trouvé d'autres fournisseurs. Selon une source militaire qui a demandé de ne pas être nommée, l'armée ne dépend plus uniquement de l'usine polonaise et s'active à améliorer la production nationale de propergol et d'explosifs aux États-Unis. C'était « Les guerres entraînent une pénurie mondiale de TNT », un texte de John Ismay du New York Times, paru dans La Presse.